Les experts sur France Bleu Cotentin, toutes vos questions jardin avec Christophe Guérand.
Il est là, Christophe, il est installé, il a sorti ses bouquins, il est prêt à écouter toutes vos questions. C'est bien ça, hein, Christophe, hein, oui, vous êtes en train de préparer la prochaine intervention, prochaine question.
Plusieurs questions qui nous sont parvenues, dont Marie-Claude de Barneville, et puis un auditeur que l'on va prendre tout de suite au téléphone.
Oui, dans quelques instants. On va parler des pommes de terre dont les feuilles jaunissent. Bah, ça peut arriver, déjà, dès ce début d'été, ça peut arriver, ça.
Ça peut arriver, mais on va en savoir un petit peu plus. Il faut que j'élucide un petit peu avec lui.
On va cuisiner Cyril dans quelques instants. Vous aussi, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions à propos du jardin au 02 33 23 13 23. Christophe Guérand est avec nous pendant encore au moins 40 minutes pour en parler.
Pour poser votre question jardin à Christophe Guérand, appelez France Bleu Cotentin au 02 33 23 13 23.
À 11h, amusez-vous, jouez aux 50, culture générale, histoire, chanson.
C'est doux, c'est fun doux.
Répondez sans traîner à 5 questions. Et à la fameuse question normande, la question bleue.
Ah mais non, ça chante pas, ça c'est sûr.
Et gagnez de superbes cadeaux.
Yes.
Le 50, le jeu qui rend fou les manchois, du lundi au vendredi à 11h.
Mon sentiment, c'est que c'est plutôt bien.
Sur France Bleu.
Jusqu'à 10h sur France Bleu Cotentin, les experts avec Christophe Guérand au 02 33 23 13 23.
Bonjour Cyril.
Oui, bonjour.
Bonjour Cyril.
Cyril, vous nous appelez de Julouville.
Oui, tout à fait.
Alors, Cyril, vous avez une question à propos de vos pommes de terre dont les feuilles jaunissent. Est-ce que c'est bien ça ?
C'est ça même, oui.
Alors, comment ça se fait, Christophe ?
Alors, Cyril, ces pommes de terre sont plantées depuis combien de temps ?
70 jours, à peu près.
70 jours, et elles sont en pleine terre.
Oui.
C'est pas sous serre. Et elles n'ont pas encore fleuri ?
Si, elles sont en train de fleurir actuellement.
Elles sont en train de fleurir, bon. Et ce jaunissement n'est pas dû à la présence de champignons, type mildiou, des choses comme ça ?
Ah, je pense au mildiou, mais je suis pas sûr. Et c'est les feuilles du bas qui jaunissent au fur et à mesure.
D'accord. Alors, bon, que les feuilles... Si c'est du mildiou, la feuille, elle va finir par jaunir, mais d'abord, elle prend une teinte grise. Et puis, si vous observez de près, vous allez voir les fructifications du champignon. Hein, ça fait comme un espèce de duvet gris à la surface de la feuille. Ça prend généralement par l'extrémité de la feuille. Et là, la feuille va se mettre à pourrir et non à jaunir. Donc, le fait qu'elle soit... Bon, 70 jours, c'est un petit peu court, mais du fait qu'on a une saison un petit peu... une période un petit peu sèche actuellement, il se peut simplement qu'elles soient en train de finir leur cycle. C'est un petit peu court, certes, mais vous avez un terrain peut-être qui est assez drainant aussi également.
Une
terre assez légère, ouais. Donc, elles ont peut-être manqué un petit peu de fraîcheur, un petit peu d'eau, et elles sont en train de terminer leur saison de naturellement. Hein, elles sont en train de finir. Alors, la récolte va peut-être être un petit peu moindre. De toute façon, là, il va être un petit peu tard pour arroser et favoriser la pousse davantage des tubercules. Vous pouvez éventuellement quand même, de façon à ce que les tubercules ne soit pas trop sec en surface, arroser encore un petit peu de façon à terminer, essayer d'allonger un petit peu cette saison de pousse. Mais bon, la plupart des tubercules sont déjà quasiment formés. C'est normal. Si ce n'est qu'un jaunissement, c'est normal. Normalement, on est un petit peu plus long. Hein, on est sur une bonne vingtaine de jours de plus pour avoir un cycle normal. Mais là, étant donné les conditions, en terrain un petit peu sec, une saison un petit peu sèche, le cycle se fait de façon un petit peu plus courte. Donc, regardez, vous allez voir, hein, défouissez déjà quelques pieds, vous allez voir si la peau est déjà bien dure en surface, ça veut dire que les pommes de terre vont se conserver de façon correcte par la suite, donc il n'y a pas de raison, ça. Laissez-les encore, hein, bien sûr, ne les arrachez pas dès maintenant, laissez le cycle se terminer, c'est-à-dire que la partie aérienne fane complètement pour pouvoir les arracher. Mais logiquement, ça devrait pas poser de problème.
Très très bien. J'ai pas besoin de couper les fans maintenant et laisser les pommes de terre en terre.
À partir du moment où elles ne sont, la plante n'est pas malade, il n'y a pas de raison de si effectivement il y avait présence de maladies, de mildiou sur les tiges. À ce moment-là, oui, il faut couper les tiges pour éviter que ce champignon ne se propage jusqu'au tubercule. Mais dans le cas d'un flétrissement naturel, c'est la fin naturelle du cycle de la plante. Vaut mieux laisser la plante faire son cycle jusqu'au bout, de façon à avoir des pommes de terre qui soient complètement mûres.
Très bien.
Voilà Cyril, vous pourrez manger des frites, vous pourrez manger des pommes de terre sautées, vous pourrez vous faire plaisir avec les pommes de terre du jardin, c'est promis. Voilà, à bientôt Cyril.
Merci Cyril.
Au revoir.
Vous aussi n'hésitez pas à poser vos questions à Christophe Guérand, vos questions jardin au 02 33 23 13 23.
Pour poser votre question jardin à Christophe Guérand, appelez France Bleu Cotentin au 02 33 23 13 23.
I'm never ever gonna stop.
Light sur France Bleu Cotentin.
Les experts sur France Bleu Cotentin, toutes vos questions jardin à Christophe Guérand au 02 33 23 13 23.
Toutes les questions sont bonnes à prendre. On vous attend hein, sur France Bleu Cotentin. N'hésitez pas, une question jardin, nous sommes là pour ça. Faites comme Noël par exemple. Bonjour Noël.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez bonjour, de Noël. Sainte-Mère Église, Noël, et vous avez une question à propos d'une greffe de pommier, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, oui. Je fais partie des associations de jardiniers amateurs. Là. J'ai un collègue qui est venu me greffer un pommier. Et il en a effectivement greffé chez lui aussi. Les greffes ont pris chez lui, et chez moi, ça n'a pas pris. Alors, il est venu voir ce qui s'était passé. Il a enlevé la pâte à greffer qu'on avait mis autour des petits greffons, et là on s'est aperçu que la peau au bout était pourrie et le bois était devenu tout noir et sec du porte-greffon.
D'accord, bonjour Noël.
Et bonjour Christophe.
Alors, ouais, effectivement. Alors, il arrive quelquefois que malgré toutes les précautions que l'on peut prendre, des greffes n'arrivent pas à reprendre. Pour qui, pourquoi, même des professionnels, hein, ça leur arrive. Quand on greffe quelquefois des centaines d'arbres à la suite, il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas. J'ai discuté ce printemps-là avec un professionnel qui est spécialisé dans le fruitier. Il avait toute une série qui n'avait pas fonctionné. Alors il y a les conditions météo qui quelquefois jouent, il y a les conditions de conservation des greffons. Alors peut-être votre ami a fait ses greffes assez rapidement chez lui, quelques jours de conservation supplémentaires pour les greffons, pour les faire chez vous, suffisent à dégrader un petit peu les greffons et à ce que ça ne fonctionne plus, ou que ça ne fonctionne... Il y a une période, il y a une saison aussi qui est assez précise à respecter. Quelquefois, même pour faire par exemple des boutures, en l'espace de quelques jours, soit ça va marcher correctement, vous allez avoir 90-100% de réussite, et puis quelques jours après, vous allez recommencer les mêmes séries de boutures avec les mêmes origines, et puis vous aurez moins de réussite parce que il y a une évolution des tissus aussi qui se fait. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu.
Est-ce que la lune aussi, ça peut être un facteur?
On en parlait encore hier. Effectivement, la lune a aussi une influence hein, sur les végétaux, donc bien sûr aussi sur les... Alors elle est peut-être moins mesurable, mais elle a aussi son influence. Et puis, alors surtout, il y a un truc qu'il faut impérativement faire, je ne sais pas si votre ami a réalisé ce genre de choses, mais surtout c'est de mettre, en parallèle du greffon, c'est de mettre un support, une branche que l'on attache en parallèle de ce greffon. Alors ça va servir quelquefois à tenir ce greffon bien attaché en même temps, malgré la ligature. Malgré la ligature, mais il sert aussi beaucoup, c'est aux oiseaux à venir se percher. Parce que, donc, quelque chose qui va être plus haut que le greffon lui-même, de façon à ce que les oiseaux viennent se percher plus haut. Et souvent, ça peut être une cause. En fait, les oiseaux viennent se percher sur le greffon, et en fait, ils le font bouger sans arrêt, si bien que, c'est pas volontaire, hein, pour nous embêter qu'ils viennent, c'est simplement pour se percher, et ils viennent empêcher, du fait du mouvement, ils viennent empêcher la greffe, la soudure de se faire. Voilà, c'est pas évident hein, de vous donner une réponse très précise dans ce cas-là. Il peut s'agir également d'une attaque de champignons, de chancres. Voilà, il y a vraiment énormément de causes différentes, et faudrait avoir l'échantillon aussi là sous les yeux pour pouvoir se permettre de vous donner une réponse plus précise. Mais bon, c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui rentrent en jeu que c'est un petit peu compliqué.
Parce que je peux permettre, mais il s'explique pas, c'est parce que c'était un pommier qui avait déjà 5-6 ans, quoi, puis qui donnait pas des bonnes pommes. Alors, on a greffé sur 3 branches, je crois, et il s'explique pas, c'est que le bout de chaque branche de porte-greffe est devenu tout noir et que la peau est pourrie, mais juste sous la pâte. Et si on gratte la peau en dessous de la greffe, la peau est restée toute verte. Elle a juste le bout de chaque porte-greffe qui est devenu sec, tout noir, et que la peau est pourrie. C'est ça qui s'explique pas.
Oui, effectivement, c'est assez bizarre. Je pensais que c'était simplement le greffon qui était atteint, mais là, c'est le porte-greffe qui a...
C'est le porte-greffe qui est pris, et il a greffé ça chez lui le lendemain que chez moi. Alors, il n'y a pas
d'accord, il n'y a pas d'histoire de délai entre les deux.
C'est ça, oui.
D'accord, alors là, très honnêtement, éventuellement, si vous avez la possibilité, c'est de sectionner la partie supérieure de cette branche qui est en train de dépérir, et c'est de le déposer ou de l'envoyer de façon à ce que j'essaie de voir un petit peu mieux de quoi il peut s'agir. Mais très vraisemblablement, il s'agit d'une attaque due à un champignon. Alors ce champignon était peut-être présent à l'extrémité ou sur l'écorce. Lorsque la coupe a été faite, eh ben, il s'est propagé forcément au niveau de la coupe. Et puis, du fait que le matériel va d'une coupe à une autre,
on
transmet aussi certains champignons. Si vous avez l'occasion, envoyez-moi un petit échantillon ou même un échantillon d'écorce simplement. Ça va me permettre de mieux cibler ce qui a pu se produire. Mais effectivement, c'est assez curieux que la greffe ne prenne pas, c'est une chose, mais là, que l'extrémité du porte-greffe se mette à pourrir, c'est plus difficile à comprendre.
Oui, ben, je vais vous envoyer ça à Radio Cotentin, je vais l'envoyer à l'échantillon.
On va vous repasser, Émilie, à l'accueil, et vous allez prendre les coordonnées de la radio et de Christophe.
En tout cas, merci Noël. Et puis, malheureusement, ce sera à recommencer l'année prochaine. Mais faut être patient quelquefois avec la nature et surtout avec le jardin.
Oui, mais c'est ce que m'a dit mon ami. Il n'y a plus qu'à recommencer l'année prochaine.
Merci Noël. Passez un bon dimanche.
Merci à vous.
Merci. Au revoir Noël.
Vos questions, n'hésitez pas, vous aussi, vous nous les posez sur France Bleu Cotentin au 02 33 23 13 23.
France Bleu Cotentin.
Patrick Fiori en duo avec Soprano. Côté musique, tout à l'heure, on écoutera Chris, Isaac et Benabar. France Bleu.
Ça vole des tours sur France Bleu. Tout est dans le titre. 17h10 et 18h10, on vous présente tous les spectacles de la Manche. Théâtre, concert, expo. 17h20 et 18h20, le jeu des mouettes. On joue avec vos artistes préférés et vous gagnez les plus beaux cadeaux France Bleu. Vous pouvez essayer dès maintenant. Ça vaut le détour toute la semaine, dès 16h, sur France Bleu et sur francebleu.fr.
Jusqu'à 10h sur France Bleu Cotentin, les experts avec Christophe Guérand au 02 33 23 13 23.
Allez, c'est le moment d'accueillir Albert de Granville. Bonjour Albert.
Bonjour Christophe.
Bonjour Albert.
Et moi c'est Ludovic, Albert.
Bonjour Ludovic.
Vous avez un arbuste dont les feuilles sont mangées, c'est ça?
Oui, alors là, ça a commencé cet hiver par les arbustes à feuilles persistantes, c'est-à-dire le laurier, les rhododendrons qui étaient mangés. Les feuilles sont dentelées. Il y a donc un parasite qui s'y attaque, qui est invisible. Est-ce qu'il est nocturne? Est-ce qu'il s'agit d'une chenille, d'un coléoptère? Je n'en sais rien. Mais maintenant, ce sont les feuilles des rosiers qui sont attaquées, ainsi que les troènes. Donc, ça continue. C'est une bestiole qui aime beaucoup la chlorophylle, apparemment.
D'accord. Alors, Albert, ces feuilles, c'est le bord de la feuille qui est denté.
Oui, exactement.
Bon, alors, c'est assez caractéristique. Alors, c'est un petit insecte qui s'appelle l'oturin. C'est un petit coléoptère de couleur gris foncé, presque noir. Certaines espèces sont avec des rayures, mais donc qui ont des mœurs nocturnes. C'est la raison pour laquelle vous ne les voyez pas. Pendant la journée, alors soit ils se réfugient au niveau du sol, sous les feuilles mortes, soit ils vont rester dans les plantes, alors bien souvent cachés au milieu du feuillage. Si vous secouez le feuillage, vous allez voir tomber au sol. Et si vous sortez la nuit pour les voir, c'est la même chose. Dès que vous allez les éclairer, ils vont se laisser tomber au sol, ils vont faire le mort. Alors, ça a un impact effectivement sur l'aspect végétatif, hein, et puis ça diminue forcément le fait que les feuilles soient mangées, ça va diminuer un petit peu la vigueur des plantes, mais l'impact le plus important, il est fait par les larves. Alors ce sont des petites larves blanches qui, alors là maintenant, elles vont être quasiment sorties puisque vu les températures, elles se sont complètement développées. Elles vont mettre un an à se développer, et par contre ces larves, alors, on dirait des larves comme des larves de hanneton, mais beaucoup plus petite, hein, puisque l'insecte est beaucoup plus petit, la larve est faite entre 8 et 10 mm de long, et elle va dévorer les racines. Et quelquefois, quand ces insectes sont très nombreux, et ça arrive sur des jeunes plantes, notamment de rhododendron, ça arrive à la mort de la plante, parce que la totalité de la racine peut être mangée. Alors, autrefois, on utilisait des insecticides que l'on répandait au niveau du sol, qui arrivaient mais qui sont extrêmement toxiques. Dieu merci, on a supprimé ça du marché et on a trouvé des alternatives à ce fléau qui quelquefois peut poser de très très gros problèmes. Alors ce traitement, ben il est tout simple, et maintenant on trouve ça dans le commerce, même en gamme amateur. Alors quelquefois c'est sur commande, quelquefois on va le trouver directement parce que c'est un produit vivant, donc si vous voulez ça peut pas être conservé éternellement.
Qu'est-ce que c'est alors?
Alors il s'agit en fait d'un ver microscopique. Alors qui va être il est sous forme latente, si vous voulez. Là ça va se présenter sous forme d'une poudre. C'est un nématode qui va venir parasiter les larves. Il va se développer, il va se déplacer dans l'eau du sol. Donc, vous arrosez bien le sol, donc en période de ponte, et là, ça va pas tarder. Les adultes sont développés, là, et ils vont commencer à pondre. Donc, d'ici un mois, vous allez pouvoir procéder au traitement. Et donc, vous allez trouver cette poudre, hein, c'est dilué dans de la poudre d'argile, vous allez mélanger ça à de l'eau et vous allez arroser au pied de vos arbustes. À partir de ce moment-là, ces nématodes, ces vers microscopiques, hein, on les voit pas à l'œil nu, ils vont se déplacer dans le sol, ils vont à la recherche des larves de cet oturinque, ils vivent en symbiose avec une bactérie, et ils vont pénétrer à l'intérieur de la larve. la faire mourir. En l'espace de quelques jours, quelques heures, la larve va mourir, mais elle va servir de nourriture à ces vers microscopiques. Ces vers microscopiques vont se multiplier à l'intérieur de la larve et vont partir à la recherche d'autres larves. Et c'est un produit qui est remarquablement efficace, hein, puisque une larve, et si vous fouillez un peu dans le sol, donc vous allez trouver ces larves, à partir de là, vous allez voir, elles sont blanches, et à partir du moment où vous allez faire le traitement, elles vont devenir de couleur rosée, et là, ça veut dire qu'elles sont mortes. Mmh. Et ça marche relativement, ça marche très bien. Faut que la température du sol soit assez élevée, donc ça va être le cas quand vous allez pouvoir faire le traitement. Vous allez pouvoir faire ces traitements-là, je dirais, jusque fin septembre, quand la température est encore relativement élevée.
Et avec ça, on va vraiment se débarrasser de ces...
Avec ça, vous allez vous débarrasser quasiment de la totalité des larves. Alors, ce que vous pouvez faire, néanmoins, actuellement, c'est utiliser un traitement à base de pyrèthre pour limiter le nombre des adultes. Alors, vous allez traiter l'ensemble des arbustes qui sont atteints, et ainsi, vous allez limiter un petit peu le nombre d'adultes, donc le développement et la ponte de ces larves par la suite. Mais par la suite, pour pouvoir vraiment se séparer de ces petits insectes qui sont, ouais, qui peuvent avoir un impact quand même assez important, eh bien, il va être... ça va marcher... Ça marche relativement bien, hein, ce produit. Donc, vous allez trouver ça en jardinerie assez facilement. Ça s'appelle... Alors, le nom latin de
du parasite,
c'est Hetero abditis. C'était assez compliqué, mais si vous cherchez, si vous demandez de la lutte biologique contre les otiturinques, on va savoir vous guider en jardinerie.
Alors, comment vous appelez ça, otiturinque ?
Alors, les otiturinques, ça s'écrit OTIORHYNQUE. Voilà, c'est un petit insecte, un petit coléoptère noir. Bon, alors, encore une fois, je vous dis, lui a un impact assez faible sur la végétation, mais c'est surtout sa larve qui pose des gros soucis.
Je m'en rends compte.
Voilà, Albert, vous savez tout, hein.
Merci.
Voilà, Albert, bon, j'espère avoir répondu complètement
bon
à votre question.
Merci, Albert.
Merci, Albert.
Simone, bonjour, Simone.
Bonjour, Simone. Voilà, moi j'ai un petit souci avec, enfin un souci, j'ai un laurier rose qui ne fleurit pas, il a des boutons, il a pas mal de boutons, il est bien vert, il fait même 3 mètres de haut, et ça ne fleurit pas, ça n'éclot pas. Alors il a fleuri, il a donné quelques fleurs il y a quelques années, mais depuis plusieurs années il ne fleurit plus.
Ouais, alors Simone, le souci chez nous, c'est que ben, le laurier rose tient relativement bien. C'est le cas aussi du lilas des Indes, hein, la gerstroemia. C'est le deux cas typiques de plantes qui sont normalement très florifères, mais qui chez nous vont bien végéter, mais vont avoir une qualité de floraison qui est assez décevante quelquefois. Alors c'est simplement dû au manque d'ensoleillement que l'on a dans la région. On a des températures qui lui permettent de vivre correctement, hein, on n'a pas des hivers trop froids, mais malheureusement on manque de luminosité en période estivale. Alors peut-être qu'une année comme cette année où on va avoir un petit peu plus de soleil, où on a déjà eu plus de soleil que quelquefois en Corse, vous allez réussir à en avoir un petit peu plus, mais ça reste toujours délicat de ce fait-là. Et puis lorsque l'on a un petit peu trop d'humidité atmosphérique, ce qui est quand même le cas relativement souvent, on a des attaques de botrytis. C'est un champignon qui va s'attaquer au tissu des fleurs. Et malheureusement, effectivement, les fleurs se forment bien. Vous avez bien un bouton floral, mais il se trouve attaqué. Il suffit de quelques jours de froid un peu humide. Le bouton floral se trouve attaqué par ce champignon. Et puis, malheureusement, il disparaît. Il va mourir avant de pouvoir éclore. Alors, malheureusement, c'est un peu un problème de situation où, alors, vraiment.
Oui, c'est vrai qu'il est contre un mur à l'est et derrière, juste derrière, il y a les poiriers de mes voisins là qui grimpent beaucoup plus haut et qui lui fournissent de l'ombre. Ouais, ça, c'est
donc,
sûr.
Donc un conseil général. Alors là, vous me dites, il fait 3 mètres de haut, ça serait assez délicat de le déplacer.
Ah oui, mais d'ailleurs, il a été déplacé quand il était plus jeune, puisque avant j'habitais Bretteville, et à Bretteville, il fleurissait, c'était, étaient bien fleuris.
Ouais, alors il s'agit de, enfin, pour les gens qui seraient tentés de cultiver ce genre de plantes, il s'agit de trouver une exposition ensoleillée, le maximum d'ensoleillement et de chaleur pour espérer voir, alors pas forcément tout le jour, mais de voir ces plantes fleurir.
Oui, d'autant plus qu'il a de très jolies fleurs doubles. Mais j'en vois rarement.
Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de variétés différentes et de coloris différents. Bon, généralement, ce sont les roses simples les plus résistants au froid. Bon, voilà, il faut savoir que c'est un petit peu compliqué.
Bon dimanche à Tour-la-Ville, Simone. Allez, vous aussi, vous pouvez poser vos questions à Christophe Guérand, notre expert jardinier. Il vous reste encore quelques minutes pour poser vos questions au 02 33 23 13 23. On parle jardin ce matin. Isaac, Wicked Game.
Les experts sur France Bleu Cotentin, toutes vos questions jardin à Christophe Guérand au 02 33 23 13 23.
Bonjour Yvette.
Oui, bonjour Christophe.
Bonjour Yvette.
Bon, ben voilà, j'ai un petit souci avec un abutilon.
Ah, un abutilon, je ne sais pas ce que c'est, mais Christophe doit savoir.
Ah, parce que voilà, il a les feuilles jaunissent, la feuille était bien droite, là elle baisse du nez, elles sont toutes jaunies, et puis par contre il fleurit toujours, ça fait la fleur, ça fait comme un peu comme une cloche.
Oui, c'est un. Alors l'abutilon, oui, effectivement, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un très bel arbuste. Alors il existe différentes variétés, certaines avec des feuilles panachées, aux couleurs de fleurs assez différentes. Vous en avez des blanches, vous en avez des oranges qui sont très 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 beaux. Ce sont de petits arbustes. Alors un petit peu frileux, un petit peu fragile au froid. Donc celui-là est en pot, bien sûr.
Oui.
D'accord. Vous l'avez sorti un petit peu bonheur, non?
C'est-à-dire que voilà, je l'ai acheté là au mois de mai, parce que je suis allée dans une jardinerie, je l'ai trouvé sympa, donc je l'ai pris, et puis je trouvais que la fleur était jolie, ça fait une espèce de cloche un peu dans les tons rose foncé, ça tire un peu sur le rouge,
d'accord.
Et le feuillage il est vert uni.
D'accord. Alors Yvette, cet abutilon, il est resté dans son pot et dans son mélange d'origine?
Oui.
D'accord. Bon, alors, ce qui va peut-être, comme c'est le cas bien souvent, en fait, en culture, si vous voulez, ce sont des plantes qui sont alimentées régulièrement en engrais, qui sont forcément toujours au top au niveau de l'arrosage, ni trop peu, ni trop d'arrosage. Et puis là, ils se retrouvent c'est en serre, forcément. Et puis là, ils se retrouvent en extérieur chez vous. Vous avez peut-être pas tout à fait suivi bien l'arrosage, et puis le terreau, il commence à s'épuiser un petit peu. Donc, vous allez rempoter tout ça. Va falloir le temps. Hein. De toute façon, s'il continue de fleurir, c'est qu'il est toujours bien vivant. Mais il commence à souffrir un petit peu. Et puis, alors, un mélange assez léger. N'oubliez pas une bonne couche de drainage au fond. Ce sera très utile pendant la période hivernale, puisque là, il faudra réduire les arrosages. Et puis, là, vous allez avoir la main légère au départ, hein, puisqu'il a perdu toute une partie de ses feuilles. Donc, la végétation est au ralenti un petit peu. Et puis, dès qu'il va commencer à dès qu'il va redéployer ses racines au niveau du terreau que vous allez lui mettre, il va repartir, il va refaire de nouvelles feuilles, et là vous pourrez, au fur et à mesure que la végétation va repartir, vous pourrez réaugmenter un petit peu les arrosages, et puis logiquement ça va rentrer dans l'ordre. C'est une plante relativement solide. Faudra quand même penser à l'hiverner dans une pièce à l'abri du gel, et ça va se redévelopper de façon assez importante, hein. C'est un arbuste qui arrive à faire un bon 1,50 m de haut.
Oui, il paraît, oui.
Voilà, donc un petit peu de soin en le rempotant, ça devrait rentrer dans l'ordre.
Lui causant gentiment, il va peut-être.
Voilà, vous pouvez lui passer de la musique aussi, éventuellement.
Aussi.
Bon, vous nous donnerez des nouvelles de votre abutilon, Yvette.
D'accord. Merci.
À bientôt.
Voilà, Yvette.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Les experts sur France Bleu Cotentin, toutes vos questions jardin avec Christophe Guérand.
Bon, merci Christophe.
Encore une fois, on a répondu à peu près à toutes les questions. Je m'excuse auprès de Marie-Claude de Barneville qui avait une question. On y répondra dès la semaine prochaine. Et puis, en attendant, un bon week-end, fin de week-end, un bon dimanche à tous. Un bon dimanche à tous au jardin, bien entendu. Une bonne semaine à tous et puis à samedi prochain.
À la semaine prochaine, Christophe.